Alors bonjour à tous d'abord, et puis on part en voyage parce que la plupart d'entre nous allons partir en vacances. Mais comme pour les enfants, lorsqu'on part en vacances, avant de partir en vacances, il y a les examens, les compositions, les devoirs. Alors on va démarrer avec un petit quiz. Donc nous allons faire ce petit quiz. Et n'hésitez pas à répondre, hein, ça va être un peu plus animé, mais il n'y a pas de souci, on aime aussi l'animation dans notre église. Alors je commence d'abord à vous dire que même si vous ne savez pas répondre, que si vous avez une mauvaise note, il n'y a pas de souci, ça ne vous empêchera pas de passer dans la classe supérieure. Donc même si vous avez une mauvaise réponse, pas de redoublement prévu pour l'année prochaine, répondez, n'hésitez pas. Donc, quel est selon vous le tout premier voyage évoqué dans la Bible ? Quelqu'un a une idée ? Abraham. Le tout premier voyage. Pourquoi Adam et Ève ? Ils ont dû quitter le jardin d'Éden. Effectivement, ils sont partis loin de Dieu. Alors, donnez-moi le nom de trois personnages qui ont fait un voyage remarquable dans le livre de la Genèse. Pardon ? D'autres ? J'en ai entendu un tout à l'heure. Abraham, Noé, Jacob. Bon, bah, vous avez trouvé les trois que j'avais retenus, donc bravo. Que signifie Exode ? C'était un voyage, l'Exode. Est-ce que vous savez ce que ça signifie ? Partir. Bon, je vous donne vite la réponse parce qu'on n'a pas 3 heures. C'est hors du chemin. Odos, c'est le chemin ex hors de. Donc c'est hors du chemin littéralement. Qui David a-t-il fui en partant à Rama en 1 Samuel 19 ? Oui, Saül, bravo, c'est ça. Où a été envoyé le peuple d'Israël à partir de 732 avant Jésus-Christ ? Plus exactement, dans quel pays ? J'ai entendu ? Oui, en Assyrie. Qui est revenu de Babylone pour réparer les murailles de Jérusalem ? Oui, Néhémie. Qui est parti vers l'Espagne pour échapper à ce que Dieu lui demandait ? Plus fort ? Oui, c'est Jonas. Donc, vous savez qu'il allait vers Tarsis, et habituellement, on situe Tarsis en Espagne, au lieu d'aller vers Ninive. Oh, pardon, je vous ai déjà donné la réponse. Ça arrive, hein ? Alors, quel premier grand voyage a dû faire Jésus juste après sa naissance ? Vous avez eu le temps de lire ? En Égypte, c'est la fuite en Égypte, le premier voyage de Jésus. Comment est-ce qu'il voyageait habituellement ? À pied. Et combien de voyages Paul a-t-il accompli ? Oui, 4. Le dernier, c'est celui qui l'a emmené à Rome. Alors, si vous voulez plus de précisions sur ce petit quiz, j'ai imprimé une feuille que vous trouverez à la fin sur la table où il y a les offrandes. Comme ça, vous mettez votre offrande et vous récupérez une feuille. Hein, c'est donnant-donnant. Et vous aurez un peu de précision, toutes les réponses. Donc, vous l'avez compris, toutes ces questions ont un thème commun. Alors, est-ce que vous l'avez remarqué ? On vous l'a dit, c'est le voyage, effectivement. Et comme Eric l'a dit, c'est le temps des vacances, donc je vous propose d'aller en voyage pour un bon départ en vacances. Alors, partir en vacances, c'est faire un voyage plus ou moins long. Hein. Il y en a qui habitent en ville, et puis qui prennent leur tente, et puis qui vont s'installer au camping de leur ville. Ça arrive. Puis il y en a qui partent très loin. Mais c'est quitter sa vie quotidienne, ses habitudes, changer de rythme. Et c'est vrai que ces personnages que nous avons évoqués ce matin, ils ont dû couper avec leur routine lorsqu'ils se sont mis en chemin. Alors, ils ne sont pas partis en voyage pour partir en vacances, hein, forcément. Là, ce matin, on parle des vacances, mais ce n'était pas le cas pour eux. Et il y a un homme que je n'ai pas cité et qui pourtant a dirigé un voyage qui est devenu long et périlleux. Est-ce que vous voyez de qui il s'agit ? Moïse. Alors, je vous invite à lire Exode, au chapitre 3, les versets 9 à 12. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir les Israélites, mon peuple. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?»« Je serai avec toi, lui répondit Dieu, et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. » Alors j'aimerais partager quelques remarques au sujet de ce passage. D'abord, Moïse ne choisit pas sa destination de voyage. Donc, vous voyez, il va se promener là, dans cette zone. Il ne le sait pas encore, ça va durer un certain temps. C'est Dieu qui lui dit d'où partir et où aller. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous-même de ne pas décider où vous deviez aller, mais de laisser uniquement Dieu diriger votre choix ? J'avoue que de mon côté, je n'ai pas eu souvent ce comportement. Pourtant, une année, lorsque nous étions jeunes mariés, Hervé et moi, il y a des amis de l'église que nous fréquentions qui ont insisté pour que nous allions avec eux dans un camp qui s'appelle les Down Bible Weeks. C'était un camp en Angleterre et nous sommes allés une semaine dans ce camp biblique. De nous-mêmes, on n'aurait jamais fait ce choix. Pourtant, on s'est vraiment senti appelé à y aller, pas seulement appelé par nos amis, mais on sentait que ça venait de Dieu. Et ça a été une semaine bénie, même sous la pluie anglaise. Une semaine ressourçante et revigorante. En compagnie de personnes que nous n'avions pas forcément choisies, tout comme Moïse, hein, il est parti avec plein de monde. Ça ne nous a pas empêchés ensuite de continuer des vacances touristiques en France. Mais en me rappelant cette période bénie, je me dis que ça serait quand même bien de laisser Dieu être plus souvent mon agence de voyage. Et vous, qu'en pensez-vous ? Une autre chose, il nous arrive quand même d'entendre la voix de Dieu qui nous dit de faire tel ou tel voyage pour une mission bien précise. Vous savez qu'Hervé et moi, on est partis comme missionnaires, c'est aussi un grand voyage. Moïse a entendu, mais il se trouve trop insignifiant pour accomplir la mission de Dieu. Il lui répond « Qui suis-je ?» Et ces missions, cela me fait penser aussi à des voyages entrepris par les envoyés de portes ouvertes. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des personnes ordinaires, comme vous et moi. Mais elles répondent à l'appel de Dieu et font des rencontres extraordinaires à son service. Il y a un onglet voyage sur le site de cette organisation. Il est intéressant d'aller y jeter un œil. Dieu pourrait bien vous demander à vous aussi de partir en voyage, en vacances pour lui. Sur cet onglet, vous pouvez y lire « Tous les voyages ne sont pas identiques, trouvez celui qui vous convient. » Donc, il y a un voyage pour la livraison, marcher sur les traces de frère André, acheminer des Bibles dans les pays où il est impossible pour les chrétiens de s'en procurer. Un voyage qui peut changer votre vie et celle des chrétiens que vous aidez. Il y a l'intercession, vous partez avec un groupe à destination des pays fermés à l'Évangile pour comprendre la situation du pays et prier sur place pour les chrétiens. Vous amènerez avec vous la puissance et l'amour de Dieu qu'aucun douanier ni aucune frontière ne pourront freiner. Il y a des voyages qui signifient la présence et l'encouragement. Encouragez les chrétiens par votre présence, priez ensemble, partagez votre témoignage. Montrez-leur qu'ils ne sont pas isolés, mais que nous sommes une grande famille en Jésus. Cette rencontre va changer leur vie et la vôtre. Et vous voyez la dernière catégorie, personne n'est oublié, Voyage pour les jeunes. Vous avez entre 18 et 25 ans. Vivez une expérience forte dans un pays fermé pour visiter une région, livrer des Bibles, participer à un projet d'aide ou peut-être même rencontrer des chrétiens sur place. Alors, êtes-vous prêt à partir? Et puis, une dernière pensée. Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Lorsque nous partons en voyage, nous pouvons aussi avoir cette assurance que Dieu est avec nous. Nous en avons parlé ce matin pendant la louange. Mais pas seulement pour nous garder de tout accident, nous protéger, pour nous permettre de revenir chez nous et recommencer une nouvelle année d'activité dans notre environnement quotidien et habituel. Il est aussi avec nous pour nous guider vers celles et ceux qui ont besoin de nous. Le fait d'être hors de notre zone de confort nous rend souvent plus réceptifs aux autres, à leur vie, à leur besoin de connaître Dieu. Ne cherchons pas à nous cacher derrière notre statut de touriste, de vacancier, pour passer anonymement dans la foule. À ce sujet, j'ai particulièrement été marquée par ma collègue secrétaire du Conseil national de la FEM. Le premier jeudi du mois, à midi, nous avons une rencontre de prière de tous les membres de notre groupe par Zoom. Et un jour, elle nous répond qu'elle ne pourra pas se joindre à nous. Et elle ajoute « Suis dans l'avion, en train d'évangéliser ma voisine, serai avec vous dans l'esprit. » Ainsi, son déplacement, loin d'être juste un moment à passer, est devenu le temps de Dieu pour cette passagère qui était en recherche. Et une autre histoire personnelle, celle-là m'a montré comment Dieu est avec nous et veut nous encourager à témoigner à nos proches. Alors nous devions ramener nos petits-enfants en Auvergne pour les garder dans cette période où l'on parlait encore de Covid. Nous quittons leur maison et Louis, notre petit-fils, me fait remarquer « Mais tu n'as pas prié ?» En effet, dans cette période, j'ai beaucoup voyagé avec eux et notre rituel, c'était de ne pas démarrer avant d'avoir remis notre voyage entre les mains de Dieu. Et là, Hervé qui conduisait avait déjà démarré. Alors nous avons prié, comme nous avions prié pour ce voyage au petit déjeuner, il a pensé qu'il pouvait partir. J'ai donc dit à Louis que j'allais encore prier et j'ai eu ces mots et je pense qu'ils étaient inspirés par Dieu. Seigneur, alors que les policiers contrôlent encore les déplacements, mais que nous sommes dans les motifs autorisés, ne permets pas qu'ils nous arrêtent et nous retardent inutilement. Amen. Et puis nous avons poursuivi notre voyage. Arrivés au péage, les gendarmes arrêtaient tous les véhicules qui passaient pour contrôler les motifs de déplacement. Quelle ne fut pas notre surprise lorsque ces mêmes gendarmes nous ont laissé passer sans nous arrêter, comme s'ils ne nous avaient pas vus. Louis était complètement étonné. « Mais tu as prié, et c'est exactement ce qui s'est passé !» Oui, Dieu était avec nous, et surtout, il voulait que Louis voie qu'on peut prier et que Dieu exauce. Alors, il ne s'en prive pas désormais. Après Moïse, j'aimerais vous parler d'une autre histoire qui, celle-là, n'est pas dans la Bible, mais qui est connue par un grand nombre d'entre nous et qui a alimenté ma réflexion sur ces voyages que nous entreprenons. Il s'agit du Voyage du pèlerin de John Bunyan. C'est un livre qui a été publié entre 1678 et 1685. Il a déjà été traduit en plus de 200 langues. Lu par plus de 250 millions de lecteurs dans le monde. On dit qu'il est le plus lu dans le monde après la Bible. Alors, vu sa date de parution et son titre, ceux qui ne connaissent pas pourront imaginer que ce livre relate les pérégrinations d'un croyant vers un lieu saint. Voyage vers Jérusalem ou Saint-Jacques de Compostelle, peut-être Lourdes ou Rome. En démarrant la lecture, on se rend compte qu'il n'en est rien. C'est le voyage d'un homme à l'âme tourmentée qui se rend compte que sa vie le mène tout droit vers la perdition. Et le personnage principal déclare « J'ai peur que le fardeau que je porte ne m'entraîne plus bas que la tombe et ne me précipite au fond des enfers. » Donc, on va voir au fil des lignes les aventures d'un curieux personnage qui s'appelle Chrétien, découvrir comment il peut trouver la paix, le salut en Jésus, comment Jésus nous permet de vaincre les épreuves, les difficultés qui surgissent dans nos vies. Ce qui est remarquable, c'est que les obstacles cités à notre communion avec Dieu restent les mêmes encore aujourd'hui que ceux qui s'élevaient en 1680. Ils ont pris d'autres formes, mais ils sont toujours si actuels. L'hypocrisie, la vanité, l'amour des richesses, l'intérêt personnel, le doute, la flatterie, l'ignorance. Tous sont personnifiés, c'est vraiment une allégorie, et nous voyons comment ils peuvent nous détourner de Dieu. Alors, pourquoi vous parler de ce livre à la veille de vacances tant attendu et si mérité ? Eh bien, parce que si nous veillons à mettre ce genre de livre dans nos valises, nous pourrons bien réfléchir et méditer à notre propre voyage sur cette terre, à notre façon de le poursuivre. C'est aussi une histoire qui sera bien édifiante pour les jeunes, et s'ils n'aiment pas trop la lecture, je ne peux que vous recommander de mettre entre leurs mains la version en bande dessinée, qui leur parlera bien mieux. Et encore pire, s'ils n'aiment pas du tout lire, ça existe aussi en DVD, alors faut pas hésiter. Oui, partir en voyage, c'est aussi préparer nos moments de rencontre avec Dieu, c'est déjà prévoir de mettre à part du temps pour lui, en prenant notre Bible, bien sûr, mais aussi un ou plusieurs livres, ça dépend de notre amour pour la lecture, que notre Seigneur nous met à cœur pour notre édification personnelle. Même dans un sac à dos bien rempli, il y aura toujours de la place. Un troisième voyage. Au moment où j'ai commencé à réfléchir sur ce message, j'ai sorti au cinéma un film inspiré d'un livre de Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, c'est un aventurier, un écrivain français qui fascine ses lecteurs par ses récits de voyage. Ce film, c'est sur les chemins noirs. Si vous en avez entendu parler, vous imaginez que ça fait longtemps que je réfléchis à ce message. Et lorsque j'ai lu le résumé du film, j'ai eu envie de le voir et il était tel que je l'imaginais. De magnifiques paysages révélés par le regard d'un homme blessé et diminué. Cet homme, Sylvain Tesson, est tombé d'un toit et s'est retrouvé durant de longs mois cloué sur un lit d'hôpital. Il se fait la promesse « Si je m'en sors, je traverse la France à pied ». Donc voilà l'itinéraire qu'il a suivi. De ce périple sortira un livre où l'auteur se veut observateur des hommes et de leur vie, observateur de la nature et de sa beauté. Dans le film, on a plus les questionnements sur le but de notre vie. Et l'auteur passe une nuit dans un monastère, il partage un moment avec un ami croyant. Il y a une vue magnifique sur le mont Saint-Michel, réflexion sur la foi des hommes qui les a poussés à ériger ce monument. Mais tout ça, ça nous laisse sur notre faim. Finalement, il n'y a pas de belle rencontre avec Dieu. Et dans son livre, l'auteur écrit de ses partages avec son ami croyant. « Sous les peupliers, nous évoquions les morts, son père, ma mère. Nous n'avions pas les mêmes recours pour les consolations. Il avait Dieu. » Je me contentais du monde. Quelle triste constatation, n'est-ce pas ? Et si nous-mêmes nous étions à la place de cet ami, qu'aurions-nous répondu ? Durant les 11 semaines de sa marche, il n'a pas vu la main du Tout-Puissant qui non seulement l'avait gardé en vie, mais lui avait redonné la force de marcher et d'aller jusqu'à la fin de son voyage. Mais son but, ce n'était pas de découvrir Dieu, c'était de se prouver à lui-même qu'il était encore capable de parcourir la terre, de continuer ses aventures en quête de sensationnel. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec nous ce matin ? On a l'habitude surtout de lire la parole de Dieu dans la prédication. On est bien loin de Dieu, de la Bible. Pourtant, est-ce que nous ne sommes pas parfois comme cet homme ? Est-ce que nous n'avons pas décidé d'un voyage, d'activité, de vacances, juste par défi, pour du sensationnel, pour répondre aux critères du monde ? 1 Pierre 2,11, encore 1 Pierre, nous rappelle « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi, je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. » Oui, nous avons le droit de découvrir de magnifiques paysages, de rencontrer de belles personnes, de faire des randonnées ou des balades à vélo. Mais cela ne doit pas être comme Sylvain Tesson parce que nous voulons être du monde. Dieu nous encourage à contempler sa magnifique création pour pouvoir davantage le louer et l'adorer. Il nous conduit hors de nos sentiers battus pour nous faire goûter combien il est bon et combien il prend soin de nous. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes dans ces moments-là. Nous ne sommes pas cachés loin de Dieu. Au contraire, il nous attend afin de rafraîchir notre foi. Lorsque nous partons en vacances, que nos désirs et nos envies ne fassent pas la guerre à notre âme, mais qu'au contraire, notre soif de Dieu devienne encore plus forte et soit étanchée. Et que là où nous sommes, nous cherchions à être encore plus et mieux ses témoins. Et j'aimerais terminer mon propos ce matin par celui qui est notre modèle, le voyageur infatigable, qui a parcouru sans broncher des centaines de kilomètres pour parler aux foules. Il s'agit bien sûr de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était difficile de chercher un voyage précis, un itinéraire particulier pour parler de lui, tant il s'est déplacé, parfois sur des chemins où nous aurions sans doute eu du mal à le suivre. Il a même marché sur l'eau. C'est en marchant le long du lac de Galilée qu'il a appelé ses disciples. On le voit en Matthieu 4, 18. Il a guéri l'aveugle Bartimée le long du chemin. Marc 10, 52. Il parcourait ville et village. Marc 6, verset 6. Il marche environ une journée pour se rendre auprès de Lazare qui vient de mourir. Jean 11, 1 à 17. L'histoire du figuier desséché se situe pendant qu'il marchait entre Béthanie et Jérusalem. Marc 11, 12, 14. Alors je m'arrête là parce que je ne peux pas tout citer. Et puis, vous avez vous-même la Bible où vous pourrez retrouver tous ces déplacements de Jésus. Celui que nous allons regarder ce matin, c'est le voyage qu'il a accompli après sa mort sur la croix, que nous trouvons en Luc, chapitre 24, les versets 13 à 35. Alors, c'est un passage qui est long, je ne vais pas le lire, je vais lire seulement la fin. Et je vous invite à relire tout ce passage, donc je le répète, Luc 24, 13 à 35, chez vous, au calme. Lisons Luc 24, 30 à 35. C'est à la fin de ce voyage avec les disciples d'Emmaüs. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais déjà il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles. « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. » Alors les deux disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Alors, si nous revenons sur la totalité de l'histoire, elle est très parlante à mes yeux, et elle reflète ce qui peut nous arriver lorsque nous partons en vacances. Souvenez-vous, les disciples sont en chemin, ils sont désolés, affligés, déboussolés par ce qui s'est passé à Jérusalem. Jésus a été crucifié et il est mort. Celui en qui ils avaient placé leur espoir n'est plus. Il en est de même pour nous. Parfois, lorsque nous partons, nous sommes affligés, désorientés par des situations qui nous dépassent et où nous stressent. Alors en ce moment, comme Eric nous l'a rappelé, on est stressé par la situation de ce qui se passe dans notre pays. Mais plus personnellement, avec tel collègue de travail, ça ne va plus avec des années de bonne collaboration. Un nouveau chef a remis nos compétences en question. Nos enfants ados deviennent difficiles à gérer. Nous ne comprenons pas pourquoi dans notre couple, une crise que nous n'avions pas vue venir s'est déclarée. Nous avons l'impression que tout est en train de vaciller à l'église sous les attaques de l'ennemi. Il y a tellement d'exemples que je pourrais citer. Et nous prenons la route avec l'impression ou l'idée de fuir loin de tout cela. Comme les deux disciples qui s'en retournaient, croyant ne plus rien avoir à espérer. Et Dieu nous rejoint sur ce chemin. Jésus est venu à leur rencontre à côté d'eux. Dieu nous rejoint aussi. Les disciples ne s'y attendaient tellement pas qu'ils ne l'ont pas reconnu tout de suite. Ils ont poursuivi avec ce compagnon de route, ils se sont épanchés sur leur douleur, leur frustration. Ils avaient oublié que pendant 3 ans, Jésus les avait encouragés à ne pas regarder à leurs problèmes, mais à Dieu. Il en est peut-être de même pour nous. Nous ne voyons plus que nos soucis, nous nous focalisons sur nos problèmes. Nous prions, mais c'est toujours pour rappeler à Dieu que nous souffrons. Comme les disciples, la chape de tristesse ne quitte plus nos épaules. Mais comme pour les disciples, Jésus est là. Il chemine avec nous. Il nous voit. Jésus a rappelé aux disciples tout ce que les prophètes ont annoncé et aujourd'hui encore, il veut nous rappeler les promesses qu'il nous a faites. Il nous redit, oui, tu as des soucis, mais moi je suis venu pour te libérer de cela. Un jour, j'ai entendu cette phrase. Ne dis pas à Dieu que tu as des problèmes, dis à tes problèmes que tu as un grand Dieu. Et c'est vrai que ça change complètement la donne. Tout à coup, on ne regarde plus ses soucis, on regarde comment Dieu va agir pour leur trouver une solution. On va louer et adorer Dieu, lui, le Tout-Puissant qui nous délivre. Alors j'ai un peu cherché, j'ai trouvé quelques versets qui peuvent nous fortifier dans cette pensée. Et pour que vous puissiez les avoir avec vous, au bas de la feuille du quiz, j'ai noté quelques références. Donc, si vous êtes dans cette situation, vous avez vraiment besoin d'encouragement, je vous invite vraiment à prendre cette feuille pour avoir ces versets. Je vous lis le premier d'entre eux, c'est Deutéronome 31, le verset 6. « Prenez courage, tenez bon, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous, il ne vous délaissera pas. » Et ne vous abandonnera pas. Voilà, donc vous avez une courte liste de quelques textes comme ça qui peuvent vous accompagner. Et finalement, on l'a lu, les yeux des disciples s'ouvrent, ils reconnaissent Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils retournent à Jérusalem, leur point de départ, là d'où ils sont partis, pleins de joie et de reconnaissance. Ils ont compris, leur espérance n'a pas été vaincue, elle vit. Quel encouragement pour nous et quel exemple aussi. Notre voyage pour aller ailleurs ne sera pas vain. Nous n'allons pas fuir loin de nos problèmes, les laisser derrière nous, les oublier le temps d'un voyage bienvenu. Nous allons partir accompagnés par notre Seigneur. Il va nous parler, nous expliquer, nous montrer et nous ramener dans un autre état d'esprit. Au milieu de circonstances bien différentes que celles que nous avions quittées. C'est en tout cas ma prière pour chacun de nous. Que nous partions en vacances le cœur lourd ou que nous ayons simplement besoin d'un repos bien mérité. Les disciples n'ont pas laissé Jésus tant qu'ils n'avaient pas compris et Jésus ne les a pas laissés non plus. Cela nous montre que Dieu ne nous abandonnera pas. Alors, en conclusion, je reviendrai sur ces 4 voyages ou voyageurs que j'ai évoqués ce matin. Moïse a suivi le chemin que Dieu lui a montré. Il n'a pas choisi sa destination, mais il a fait confiance à Dieu pour le guider. Le voyage du pèlerin nous rappelle que notre passage sur terre est un grand voyage, parfois semé d'embûches, qui nous permettra de rencontrer Dieu, pour peu que nous en soyons désireux, que nous y soyons attentifs. Sur les chemins noirs nous montre pourtant que certains ne trouvent pas cette paix en Dieu. Ne nous lassons pas de prier pour ceux que nous croisons pendant nos voyages. Et sur le chemin d'Emmaüs, aux côtés de Jésus, nous trouverons la paix et de nouvelles forces pour redémarrer une vie renouvelée à notre retour. Alors que tous, nous passions de belles vacances, où que nous allions, auprès ou au loin, dans l'intimité de notre Seigneur qui nous accompagne à chaque pas. Amen.